Parlons, échangeons, dialoguons. Nos invités, la maire de Rennes, Nathalie Appéré, présidente également de l'Agence nationale de l'habitat, Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité. Nous sommes ici grâce à nos amis d'Ouest France qui organisent les assises de la citoyenneté, première du genre ici, autour du thème du vivre ensemble. Alors parlons ensemble, c'en est une des modalités. Des questions ici, des micros circulent dans la salle. Je vois monsieur qui lève la main. Il faut qu'on ait un micro simplement. Allez-y. Donc micro et monsieur, bonjour et bienvenue.
Bonjour. Moi, je voudrais poser une question à Madame le maire. Le projet du Centre des Congrès est, comment dire, un grand projet qui va gentrifier le quartier Sainte-Anne. La fille de monsieur François-Régis Sutin, qui est élu d'opposition, a dit il y a environ 10 mois au conseil municipal, nous avons un bel écrin. Mais le problème, c'est l'environnement. Il y a des odeurs, il y a de la saleté qui revient tous les soirs. Ça, c'est la fille de monsieur François-Régis Sutin, dont on organise un grand raout sur le vivre ensemble. Mais en fait, visiblement, les gens qui sont sales, on va les expulser de la place. Le collectif Passe à défendre a toujours dit que ça va être la conséquence de ce centre des congrès. Et je trouve ça choquant qu'on fasse des grands barnums sur le vivre ensemble alors qu'on nettoie la place Sainte-Anne, alors qu'on réprime les manifestations contre la loi travail. Des camarades, un camarade a été éborgné, Jean-François de Rennes 2. Des camarades sont interdits de manifestation, sont assignés à résidence et on ose venir nous parler de vivre ensemble. Mais c'est un gag ou quoi?
Monsieur, merci pour votre intervention qui permet au moins de souligner qu'à défaut de vivre ensemble, c'est le sens de votre question, nous pouvons parler ensemble. Vous avez donc interpellé Madame le maire, Nathalie Appéré, qui vous répond.
C'est sans doute là l'illustration de ce que peut être toute la complexité du vivre ensemble, mais aussi de la démocratie locale. C'est vrai que très concrètement, ici, nous sommes dans le nouveau centre des congrès, ce couvent des Jacobins, mais nous sommes sur ce qui a été aussi pour d'autres une place à défendre, avec d'ailleurs des arguments et des méthodes parfois identiques à celles que l'on a pu observer sur la ZAD. La réalité, c'est qu'on est dans un lieu alors qui est déjà un joyau de notre patrimoine, qui est un lieu d'échange intellectuel, culturel.
Répondez à l'interpellation, parce qu'elle est vive, mais elle a un contenu aussi, Madame le maire.
Alors, elle a un contenu. D'abord, affirmer que moi, je suis très fière de cette réalisation et très fière qu'on ait ici un lieu en cœur de ville pour des rencontres culturelles économiques. Et que, par ailleurs, sur la question de la gentrification, que j'entends parfois, la meilleure réponse, elle est dans notre politique de l'habitat. Dire, par exemple, que nous sommes une métropole qui a connu la plus forte baisse des loyers sur ces dernières années, grâce à un investissement fort dans l'habitat pour que chacun puisse se loger à Rennes. Et si on est monté au créneau sur la question de la défense des APL et du logement social, c'est précisément au nom de cet idéal d'accueil et de mixité. Et lorsque, y compris dans le centre-ville, on impose des clauses de mixité sociale pour construire du logement partout, c'est parce que nous avons une certaine idée de la ville.
Il y a des restrictions au droit de manifester, comme la question le suggérait.
Alors, la question du maintien de l'ordre ne m'appartient pas. C'est par définition.
Donc, vous pouvez en parler d'autant plus librement.
Une compétence de l'État et une compétence du préfet.
Monsieur, s'il vous plaît, on vous entend pas sans micro. On vous entend pas sans micro, donc c'est pas la peine de crier. On vous entend pas. Je vous le dis, c'est simplement pour la clarté des débats. Sur le maintien de l'ordre.
Sur le maintien de l'ordre, c'est une compétence de l'État et du préfet. Il est important que des manifestations puissent avoir lieu en démocratie, y compris des manifestations revendicatives. Mais nous avons connu trop de débordements et de violences. Et moi, je considère que les Rennais ont droit à une jouissance paisible de leur ville et de leur centre-ville.
Allez, deuxième question ici en direct, en public. C'est Sonia De Villers qui tient le micro numéro 2. Thomas Legrand lui tient le micro numéro 1. Bonjour, monsieur.
Et c'est Jean-Claude qui prend la parole ce matin.
Soyez le bienvenu sur France Inter, nous vous écoutons.
Bonjour tout le monde. Je voudrais lancer un pavé dans la mer d'Iroise. Il s'agit, après l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, de se mobiliser très rapidement et fortement contre un projet ubuesque qui est le projet de construction d'une centrale thermique au gaz à Landivisiau. C'est un projet qui reste complètement méconnu des Français et même de la majorité des Bretons. Donc je souhaite... Ce projet-là est un projet imminent, selon les directives du préfet, alors qu'il serait maintenant hors la loi, après la COP 21, qui a été confortée par la COP 23 à Bonn, au cours de laquelle Macron a déclaré que plus aucune centrale thermique à gaz, aucune centrale thermique ne serait construite en France.
Et monsieur, permettez-moi de vous poser une question. Voilà, donc vous avez bon espoir que ça ne se fasse pas.
Je souhaite, comme beaucoup de Finistériens qui se sont mobilisés dans un collectif qui s'appelle Gaspard, souhaite que cette centrale, qui coûte 800 millions d'euros, comme Notre-Dame-des-Landes, ne se réalise pas, parce qu'elle est contre-productive et empêche la création de centaines d'emplois qui seraient non délocalisables en Bretagne.
Merci monsieur pour cette intervention. On est dans une autre époque, hein, Jean-Louis Bianco, vous parliez tout à l'heure de vos souvenirs de ministre des Transports. On est dans une autre époque où la décision publique doit être co-animée à la fois par ceux qui les prennent et puis par les citoyens. C'est une autre modalité de démocratie qu'il est difficile, me semble-t-il, mais je vous pose la question, de mettre entre parenthèses aujourd'hui, non ?
Bien sûr, le temps a changé, l'époque a changé, les citoyens, à juste titre, revendiquent de comprendre, de participer, de peser sur la décision. Mais on doit trouver un nouvel équilibre, parce qu'à la fin des fins, il y a le suffrage universel. Il y a les élus d'une commune, les élus de la nation. Donc je crois qu'il faut que nous apprenions ensemble, et c'est un énorme travail, à nous écouter, à nous respecter. Et finalement, c'est pas directement la laïcité, mais c'est aussi vivre ensemble que de se parler comme on le fait là. Et je crois qu'on doit prendre le temps de l'échange et de la discussion, mais toujours en respectant celui ou celle qui ne pense pas comme vous.
Moi, je pensais qu'il y avait que sur la laïcité, en fait, que les débats étaient vifs, Jean-Louis Bianco.
Comme vous le voyez, il n'y a pas que sur la laïcité, c'est beaucoup plus fort sur les projets d'aménagement. Sur la laïcité, vous savez, moi j'ai bien aimé la réponse qui était faite à la question « qu'est-ce que c'est qu'un flocon pas très sympa ?» Et vous vous rappelez de la réponse.
Qu'est-ce qu'un flocon laïque ?
Qu'est-ce qu'un flocon laïque ? C'est un flocon pas très sympa. moi je veux une laïcité qui soit ferme, parce qu'elle défend des principes, mais qui soit sympathique. Je veux une laïcité heureuse, une laïcité qui aide à résoudre les problèmes. C'est tout le sens de mon travail. Mais quand vous êtes sur le terrain, il y a plein de gens qui font plein de choses sur la laïcité pour le vivre ensemble.
Mais vous avez du mal à défendre cette idée, me semble-t-il, Jean-Louis Bianco, ou en tout cas cette version-là de la laïcité, cette définition-là, est extrêmement débattue, contestée. Ça fait partie intellectuellement
de votre
vie.
Elle est contestée à Paris et sur les réseaux sociaux. Elle est beaucoup moins sur le terrain où les gens se posent des questions sur qu'est-ce que c'est que la laïcité, qu'est-ce qu'on fait en cas de conflit, comment on gère l'indépendance du politique par rapport au religieux. C'est ça les questions que se posent les chefs d'établissement, les entreprises, les syndicats, les associations. Et c'est ça la vraie vie. Le débat est légitime, on est en démocratie. Mais le sujet concret, c'est la laïcité. Ça veut dire quoi ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, je préside un observatoire indépendant, interministériel, pluripartisan, où il y a des députés, dont d'ailleurs Nathalie Appéré et des sénateurs. Nous sommes là, nous, pour dire le droit et essayer de fabriquer les bonnes solutions, pas pour défendre une opinion par rapport à une autre opinion. Dire quels sont les principes qui nous gouvernent et comment on peut trouver des solutions en cas de conflit.
On a vu donc et appris qu'il y avait des flocons laïques. Est-ce que vous pourriez nous décrire précisément ce qu'est le Macron laïque, Jean-Louis Bianco? Que pouvez-vous dire aujourd'hui de la position théorique, politique du président de la République?
Emmanuel Macron a évidemment réfléchi depuis longtemps à ces questions. Il s'est exprimé dans son livre, il s'est exprimé pendant la campagne présidentielle, il s'est exprimé devant les musulmans, devant les protestants. Sa conception, elle est celle de l'histoire, c'est-à-dire celle qui a abouti en 1905 à une loi dont le rapporteur était Aristide Briand, qui permet de vivre ensemble de manière apaisée. Sa conception me paraît totalement conforme à ce qu'est notre histoire et notre droit. Après, il y a sa dimension personnelle, qui est une recherche spirituelle, mais qui est intéressante aussi parce que, quand on regarde l'histoire des religions, il y a le pire et le meilleur. Il y a le pire, les guerres de religion, la pression de la religion sur le politique, et il y a le meilleur, la spiritualité, la recherche d'une élévation. Je pense qu'il est tout à fait dans son rôle, avec son histoire, avec sa tradition de dire cela, mais quand on parle strictement de laïcité, moi je n'ai pas du tout à redire à son discours.
Nathalie Appéré, encore un mot sur le sujet, si vous le souhaitez, sinon les micros circulent dans la... Allez, on donne la parole à l'un des auditeurs d'Inter qui nous fait le plaisir d'être ici. Bonjour monsieur, bienvenue et nous vous écoutons.
Bonjour, je m'adresse à Nathalie Appéré. Je réagis, moi, sur, effectivement, la décision de l'abandon de l'aéroport NDLL. et sur mon constat de l'unanimité des milieux politiques locaux sur leur déception. Je suis un peu surpris de cette unanimité. Je crois que beaucoup de monde ont compris, je crois que le philosophe Frédéric Lenoir avait prévenu il y a quelques années que notre monde, on était en train de changer d'époque à une vitesse phénoménale. Hein. On passe du paléolithique au néolithique en quelques décennies, voire en quelques années. Le vent de l'histoire a déjà balayé une bonne partie des politiques nationaux. Je ne sais pas si vous n'avez pas encore l'impression d'appartenir à l'ancien monde, mais moi j'ai le sentiment que si vous changez pas votre logiciel, dans les années qui vont venir, vous allez être balayé par le vent de l'histoire. J'ai un fils qui a 32 ans qui lui s'est réjoui de l'abandon de NDLL. C'est quelqu'un de responsable, de posé, qui voit bien justement que notre monde est en train de changer. Et moi, j'ai l'impression que, alors bien évidemment, les élus politiques et les milieux économiques, on est shooté à la dépense publique à 57%, donc on comprend que vous fonctionnez ensemble. Mais à mon avis, là, ça va vite changer. Et comment comptez-vous vous adapter?
Merci, monsieur Nathalie Appéré. Quelques mots, s'il vous plaît. Quelques mots seulement.
Pour moi, la constance, la cohérence et la clarté continuent à devoir être des valeurs politiques. Ça n'empêche pas le pragmatisme, ça empêche encore moins l'idéal de transition écologique, de transition énergétique que nous portons ici. Mais quand bien même nous voulons être très actifs sur la transition écologique, je constate qu'un certain nombre de déplacements devront continuer à se faire en avion et que la question de l'accessibilité aéroportuaire reste posée.
Allez, il est 8h55, restez avec nous jusqu'à 9h.